Autre radio, autre culture, bonjour. Cette semaine, Autre radio, autre culture et Audio People sont allés au-devant des rencontres de la création sonore 2009 qui se sont déroulées à la SAE, School of Audio Engineering.
Donc moi, je me suis intéressé à la partie réseau. Alors, on va pas faire un cours de réseau, parce que d'abord, il faudrait qu'ils nous filent les clés, puis je leur rendrai vers minuit à peu près. Mon cours réseau, c'est à peu près ça. Je vais avoir 6 heures de cours, quelque chose comme ça, sur les réseaux. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai résumé certaines particularités du réseau qui nous intéressent pour l'application transport de fichiers audio sur les réseaux télécoms et informatiques en utilisant, entre autres, le protocole IP. Bon, la pensée du jour, un réseau n'a que l'âge de ses artères. Ça, c'est obligatoire quand on se fait un chapitre avec moi. Ça commence par la pensée du jour, c'est le tarif. Alors d'abord, deux notions très importantes, notion de flux, notion de fichier. Parce que c'est vrai que les gens de radio, de télévision, etc. n'ont pas tout à fait ces notions clairement en tête. Alors le flux, c'est ce qu'on connaît depuis toujours en radio et en télé. On met le jus à la station de radio, on met le jus à la station de télé, ça crache et ça se démerde. Ça se démerde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'émetteur pousse un flux d'informations continu vers un public qui est limité géographiquement ou autre, etc. Les gens font ce qu'ils veulent. Ils se raccordent quand ils veulent, ils quittent le réseau quand ils veulent. Le mec, il rentre chez lui, il allume la radio, il allume la télé, il se tire, il a une course à faire, etc. Il coupe sa télé, il coupe la radio. Les autres continuent à recevoir le document sans aucune difficulté. Il n'y a pas de voie de retour entre les récepteurs et l'émetteur. Ça veut dire que la télé émet et fait une grande prière pour que les gens reçoivent. Elle n'en sait rien. Vous imaginez le directeur de France Télévisions ou de TF1 téléphone à chacun des téléspectateurs, t'as bien reçu le film, etc. Ça n'est pas arrivé. Il n'y a qu'une chaîne pour laquelle ce serait à peu près possible, c'est, merci bien, c'est la 5, parce que le directeur technique, il arrive à connaître chacun des auditeurs et des téléspectateurs par leur prénom, vu le nombre de personnes qu'il y a. C'est un copain, c'est pour ça que je peux me permettre de dire ça. C'est trop drôle. Bon, point très important, les paramètres techniques du flux sont déterminés par l'émetteur. C'est-à-dire que l'émetteur a une bande passante déterminée, etc., etc. Et les récepteurs qui sont capables de recevoir s'accrochent sur les paramètres définis par l'émetteur. La qualité reçue dépend d'un certain nombre de paramètres et c'est résumé par un terme que j'aime beaucoup. C'est la qualité de service, le QoS, Quality of Service, selon l'acronyme britannique. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Une bande passante plus ou moins large, un taux d'erreur plus ou moins élevé, une gig et latence, on va y revenir. La gig, c'est la variation du temps de transmission. Le temps d'initialisation de l'accès, autrement dit, quand j'allume mon poste radio, il lui faut 2 plombes et demie pour s'écrocher ou en 1 seconde, ça marche. Le téléviseur, c'est pareil, tant qu'il se met en route, on a la chance de s'accrocher en horizontal, en vertical, en chroma, au niveau du décodeur, etc., etc. On est content qu'il y ait un tout petit délai pour la mise en route. Ça permet de faire tout un tas d'opérations techniques invisibles pour le spectateur, mais qui sont forcément nécessaires. Le transfert de fichiers, file transfer en anglais, l'autre c'est streaming. Un fichier, c'est quoi? D'abord, c'est parfaitement défini et c'est limité en taille. Il y a un début, il y a une fin, il y a un nom. Et donc, on connaît la taille du fichier. Quand on transfère un fichier d'une unité à une autre, on fait ce qu'on appelle une copie. Et la copie suppose une livraison d'une réplique exacte, c'est-à-dire caractère pour caractère. Alors, pour assurer cette copie parfaite, il faut une voie de retour entre récepteur et émetteur qui va permettre au récepteur d'indiquer qu'il a reçu une information qu'elle est correcte, parce qu'il l'a vérifiée par des systèmes de détection d'erreurs. Et si jamais il y a un problème, des données qui arrivent avec des erreurs, des données perdues en cours de route, les données qui sont ou erronées ou perdues sont retransmises. Si une partie du fichier manque, le début ou la fin, par exemple, le fichier est, entre guillemets, perdu, en fait, il est inutilisable, le débit de la transmission peut être variable et celle-ci peut être effectuée de façon discontinue, c'est-à-dire que ça peut aller plus ou moins vite à certains instants. Ça peut être interrompu et ça reprend après, ça n'a aucune espèce d'importance. L'essentiel, c'est qu'à partir du moment où on fait le transfert de fichier, il faut que le fichier soit intégralement transporté à l'autre extrémité pour pouvoir s'en servir. Alors dans nos métiers, on va être amené à être parfois en flux, parfois en fichier, et donc on va être obligé de passer de l'un à l'autre. Alors quand est-ce que ça se passe? Eh bien, supposons une diffusion traditionnelle par un système audio ou vidéo ou les deux, comme un magnétoscope. La sortie d'un magnétoscope produit habituellement un flux. Quand j'envoie ce flux dans un système de stockage comme le disque dur, lui, il ne manipule que des fichiers. Quand vous travaillez avec un disque dur, lui, il enregistre des fichiers. Ces fichiers sont positionnés à des endroits bien précis, que l'on va les stocker à un endroit bien précis également, pour pouvoir le retrouver. Et le disque dur va donc enregistrer des fichiers qui vont avoir une taille parfaitement définie, qui vont avoir un nom, c'est vous qui allez nommer le fichier. Enfin, en général, c'est comme ça que ça se passe. Il vaut beaucoup mieux que ce soit l'homme que la machine qui le fasse. Ça veut dire qu'on va avoir la conversion du flux en fichier avec mise en place d'un en-tête, le header en anglais, et attribution d'un nom. La table d'allocation de fichiers, ce qui en tient lieu, enfin, selon les systèmes d'ordinateur que l'on a, peu importe que ce soit une véritable FAT ou une dérivée du FAT, permettent de savoir où ça a été stocké de façon à pouvoir retrouver le document si cette partie d'information est défaillante. On est très mal parti. On n'arrivera pas à retrouver son fichier. Le fichier peut être manipulé. Et par exemple, si je travaille d'un disque dur à un autre disque dur, je fais une copie d'un serveur sur un autre serveur, c'est de la copie de fichier, c'est du transfert de fichier classique, informatique, que tout le monde connaît. Maintenant, si je diffuse un document à partir d'un disque dur et que je le diffuse vers une antenne, une diffusion qui est faite à partir d'un serveur sur antenne, à ce moment-là, on va débarrasser le fichier de son en-tête, etc., et on va transformer, on va revenir au flux et diffuser le flux à partir de ce serveur. Alors, je vous ai fait ça sous forme de dessin. Lorsque j'ai un magnétoscope à gauche, en haut, qui fait une copie sur disque dur, je suis en flux jusqu'à l'entrée du serveur. Donc, quand on fait la copie, on est en flux jusqu'à l'entrée du serveur. Au moment où on attaque le serveur, on transforme le flux en fichier. Lorsqu'on va faire des copies, donc, on est dans le fichier pur de A jusqu'à Z. Et en troisième partie du schéma, quand on fait une diffusion à partir d'un serveur, soit pour faire une copie sur un magnétoscope, soit pour faire une vraie diffusion à l'antenne, ça existe maintenant couramment, de nombreuses stations de radio et de télé fonctionnent exclusivement à partir de disques durs. Ce qui passe à l'antenne, c'est du disque dur, et donc on transforme le fichier en flux pour accéder au système de diffusion. Le lien avec le temps. Alors ça, tu vas en reparler tout à l'heure.
Tout à fait.
J'ai défini des termes. Le terme synchrone, asynchrone, isochrone, plésiochrone sont les quatre termes. Donc j'ai mis les origines grecques, évidemment, de ces quatre termes. Nous sommes dans nos fichiers audio-vidéo, dans un cas qui est extrêmement embarrassant pour les gens de l'informatique. C'est rassurant, ça nous permet de nous rembourser pour toutes les vacheries qu'ils nous font. Nous sommes dans des documents isochrones, c'est-à-dire qu'à la limite, le temps que ça met pour arriver, c'est pas le plus important, sauf dans certains cas de figure. Et on y reviendra tout à l'heure. Mais ce qu'il faut, c'est respecter une stabilité de la transmission pour éviter donc des ruptures dans l'arrivée de nos documents. Alors, les ruptures se traduisent par un défaut bien connu, qui est le même en ce qui concerne l'image et le son, mais qui se traduit par deux termes complètement différents. En image, on appelle ça un noir antenne, et en son, on appelle ça un blanc sonore. Ça me fait toujours rigoler de voir que la même fonction donne lieu à un vocabulaire tout à fait différent, alors qu'il s'agit exactement du même phénomène, c'est-à-dire rupture d'information à la sortie du buffer en entrée de diffusion. Fichier téléchargeable et fichier diffusable. Alors, ce que l'on a vu tout à l'heure entre flux et fichier, c'est le fichier pur et dur, classique, traditionnel, etc., etc. Pour des besoins, justement, d'application dans l'audiovisuel en particulier, l'industrie a mis au point un format de fichier un peu particulier. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des informations très importantes en tête et en fin de fichier, et donc s'il en manque un bout, ben, on ne peut rien faire, et surtout on est obligé d'avoir l'intégralité du fichier pour pouvoir en faire quelque chose, aujourd'hui, on met au point des formats de fichiers dans lesquels les données sont imbriquées par petites tranches, ce qui veut dire que le fichier est utilisable alors qu'il n'est pas complètement disponible, soit qu'il n'est pas complètement arrivé, sur une arrivée satellite ou je ne sais pas quoi, on peut commencer à travailler dessus, faire du montage sur les premières séquences, alors que les dernières séquences ne sont pas encore sur place. Et ça s'appelle le streamable file, le fichier utilisable comme un flux, alors que c'est un fichier. Je vais vous donner des exemples tout de suite. Les formats de fichiers, il y en a des milliers, des milliers, des milliers. Si vous commencez à regarder les extensions, etc., etc., vous n'allez pas être déçu. Il y a des dictionnaires d'extensions. Et puis même, dans certaines extensions, vous avez des sous-rubriques. Je vais prendre un exemple de format de fichier audio-vidéo qui est l'AVI. Deux formats tout à fait incompatibles en AVI. Certaines stations en comprennent un et d'autres en comprennent que l'autre configuration. C'est très bien. Vous faites un fichier AVI, vous dites ça va marcher, et puis quand vous arrivez quelque part, ça ne marche pas. Donc les formats de fichiers sont innombrables, ce qui veut dire qu'il y a un manque d'interopérabilité entre les matériels de constructeurs différents et des organismes listés ici, comme l'AAF Association, la société Grass Valley, qui est un format propriétaire qui est maintenant normalisé 360 SMPTE, qui est le GXF, ou le ProMPEG Forum avec son MXF, qui est un AAF extrêmement simplifié, ont mis au point donc des formats de fichiers qui permettent les échanges entre stations de constructeurs différents et permettent de commencer un travail sur une station, de le poursuivre sur une autre. Alors, l'OMF est un des éléments fondateurs de l'AAF. C'est-à-dire que OMF a été apporté par Avid en dot lors de la constitution de l'AAF Association. Et les deux premiers fondateurs de l'AAF, c'était Avid et Microsoft, qui a permis de donner un peu de poids au truc. L'OMF date des années 95-96. Alors maintenant, là-dedans, il y a deux catégories différentes. L'AAF, qui n'est que téléchargeable, c'est un fichier pur et dur. Bon, quand on sait comment... Enfin, je ne veux pas vous faire un cours sur AAF et MXF. J'ai ça en magasin, mais ce n'est pas le but de la journée. L'AAF est un format de fichier extrêmement complexe qui permet, à partir des originaux, qu'ils soient texte, images, sons, graphiques, etc., plus de tout ce qui a été fait derrière, mais dont on garde l'historique intégral, car on ne touche pas aux originaux, ça permet à n'importe qui de refaire la production, on lui donne toutes les informations nécessaires. Même le charcutier est capable de refaire une émission de télé si on lui fournit le fichier AAF. Donc, on peut avoir un fichier dont la taille est nettement plus importante que la taille du contenu réel, ce qu'on appelle l'essence. Images, sons, etc., les métadonnées peuvent être 3, 4 fois, 10 fois plus importantes que les données images, sons du fichier. Le MXF et le GXF sont beaucoup plus simples. Par exemple, en MXF, on peut faire du cut image, du cut son et du fondu audio. Point. Si vous voulez faire autre chose, il faut passer en AF. C'est les seuls effets permis en MXF, c'est du cut ou du fondu audio. MXF et GXF sont des streamable files, c'est-à-dire qu'on peut travailler sur un fichier GXF ou sur un fichier MXF, alors qu'il n'est pas encore complètement téléchargé, complètement disponible à l'arrivée sur la station sur laquelle on travaille. Autre point que je voulais présenter, c'est la notion d'unicast et multicast. L'unicast est quelque chose d'extrêmement complexe et surtout extrêmement coûteux. Ça veut dire qu'il y a autant de liaisons depuis l'origine du fichier, le serveur qui dispose du fichier, que de personnes qui le demandent à un instant T. S'il y a 10 000 personnes qui interrogent le même serveur, vous avez 10 000 liaisons plein pot qui partent du serveur et qui vont vers les 10 000 abonnés qui sont en train de travailler sur le truc. Si vous allez chercher un fichier sur Internet, sur un serveur aux États-Unis, et puis que vous êtes ici à la SAE, qu'il y a 50 élèves qui font la recherche sur le même fichier en même temps, vous aurez 50 fois le débit. Ça veut dire 50 portes de sortie sur le serveur et 50 liaisons plein pot depuis le serveur jusqu'ici. Alors que vous êtes à quelques mètres l'un de l'autre et que peut-être le fichier aura traversé l'Atlantique. Il y aura 50 fois la traversée simultanée. En multicast, on gère le réseau de manière complètement différente et on essaye de faire que la multiplication des documents soit faite le plus tard possible dans le réseau de façon à ne pas multiplier et les ports de sortie du serveur de disponibilité du document et les liaisons intermédiaires. Donc c'est beaucoup moins coûteux en ressources, mais ça suppose une gestion beaucoup plus intelligente du réseau et en particulier des routeurs. Lorsqu'on est en point-à-point intégral, le unicast end-to-end, chacun reçoit un flux complet, il y a autant de ports de sortie, etc., etc. Bon, je ne le refais pas. Donc c'est très vite inapplicable parce que ça demande trop de ressources serveurs, demande trop de ressources réseau, etc. Parmi les grands exemples d'utilisation d'Internet pour ce genre de choses, quand la petite bagnole était exposée sur Mars, ça a explosé au niveau de la NASA, donc ils ont pris les fichiers qui étaient disponibles à la NASA et ils ont dupliqué les documents au niveau du serveur de Space Agency. Et donc, quand les gens d'Europe allaient chercher les infos à la NASA, en fait, ils étaient réaiguillés sur l'ESA, ce qui permettait de couper en quelque sorte en deux le monde, les États-Unis d'un côté et l'Europe de l'autre, pour éviter justement que les liaisons transatlantiques soient complètement bouffées par ce genre de manip.
En plus, les gens regardant la même chose.
Oui, absolument. puisque les images, elles sont uniques pour tout le monde. Donc, le end-to-end multicast, c'est... on essaye de gérer le réseau de manière beaucoup plus intelligente, de façon à avoir le minimum de liaisons et de ne multiplier les branches qu'au dernier moment, là où on arrive près des utilisateurs. La mise en paquet. Bon, nous, on a des flux. On ouvre un micro, on ouvre une caméra, ça crache. Et on va découper ça en tranches de sauciflard. C'est comme si on nous livrait un saucisson en tranches. Pour permettre de s'y retrouver, chaque tranche aura une petite étiquette. Si vous allez dans une gare de triage à la SNCF, vous verrez des wagons en quantité colossale. Hein, quand vous envoyez 3 millions de tonnes d'acier, ça fait beaucoup d'un coup, mais enfin bon, admettons. Entre la Syrie et le port où ça va être expédié, ça ne rentre pas dans un wagon, je vous le dis tout de suite. Un wagon, quand vous avez dépassé 35-40 tonnes, ça commence à... Donc, on va mettre ça dans plusieurs wagons, et donc la SNCF fout des étiquettes sur le côté pour savoir d'où ça vient, où ça va, etc., etc. C'est ça, nos entêtes de paquets. Alors, la mise en paquet d'un système de type flux, etc., consiste d'abord à le découper en petits morceaux, parfaitement délimité et identifiable au moyen de l'entête qui est ajoutée en début de chacun des paquets. Alors, je ne donne pas de données générales sur les paquets, parce que chaque type de paquet est différent l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des paquets de taille fixe, par exemple, il y a des paquets de taille variable. Alors, si vous n'avez que des paquets de taille fixe, l'avantage, c'est comme le système sait très bien quelle est la taille des paquets, il n'y a pas besoin de lui dire. Si vous travaillez en paquet à longueur variable, vous êtes obligé d'indiquer dans l'entête la longueur du paquet qui est derrière. Sinon, pour retrouver ces petits, c'est impossible. Donc, il y a, selon le type de paquet, vous aurez des informations plus ou moins importantes à caser dans l'entête des paquets. Évidemment, à l'autre bout, on peut reconstituer le flux à partir des paquets en remettant les éléments les uns derrière les autres et en enlevant les entêtes, ce qui permettra de revenir au document d'origine. Le terme paquet est un terme générique. Vous trouverez dans certaines technologies des trames, dans d'autres technologies des cellules. Par exemple, Ethernet, c'est des trames. Par exemple, ATM, les réseaux ATM, ce sont des cellules. Tout petit paquet de 53 octets. Alors, les avantages de la transmission par paquet, c'est d'avoir repérage et identification plus aisés des données, un multiplexage beaucoup plus simple de plusieurs signaux sur un tuyau, le multiplexage étant une optimisation des possibilités offertes par un tuyau et de permettre donc de transporter plusieurs types d'informations. La mise en paquet permet une allocation dynamique du canal en fonction de ce qu'il y a à transporter, de l'urgence de transporter tel ou tel truc avant tel ou tel autre, etc. Alors là, c'est des notions qui dépassent l'aspect purement technique et qui concerne des aspects commerciaux, c'est-à-dire que certains systèmes de réseau incorporent des données d'urgence, je paye plus cher pour que mon fichier soit à telle heure, à tel endroit le lendemain, etc., etc. Il y a une négociation financière qui se traduira par des impératifs techniques que devront respecter le ou les réseaux sur lesquels vont être transportées les informations. Alors, on peut acheminer les paquets vers des destinations différentes à partir d'un même morceau de réseau. Et donc, cela permet une meilleure utilisation des réseaux et une réduction des coûts de transport, ce qui est bien pour les comptables. La synchronisation. Alors, si on a un système 100% synchronisé de A jusqu'à Z, il n'y a pas de problème. Quand on est dans un réseau qui n'est pas synchronisé, eh bien, il faut reconstituer l'horloge de départ à l'arrivée. Et pour ça, il y a différentes technologies qui existent. Soit on a une horloge qui est présente d'une manière plus ou moins importante, soit on est capable, par un moyen astucieux, de retrouver l'horloge. Et là, on a à notre disposition des circuits électroniques extrêmement performants que tout le monde connaît, qui s'appelle la PLL, hein, la boucle à verrouillage de phase, qui permettent de reconstituer très facilement les horloges à l'autre extrémité. Alors, je vous ai mis un exemple de fichier. C'est le fichier du MPEG-TS. Transport Trim, qui est utilisé pour la diffusion de télévision. Ce sont des fichiers qui sont découpés en paquets de longueur variable. Donc, on a un en-tête et une charge utile, ce que les Américains appellent de payload. Le fichier est découpé en... le flux, pardon, est découpé en paquets de 188 octets. Alors, il y a l'en-tête. À l'intérieur de l'en-tête, il y a un sous-en-tête. Et à l'intérieur du sous-en-tête, il y a encore un autre sous-en-tête. Et la partie que j'ai mis en bleu ici, le PCR, Programme Clock Reference, c'est une petite référence d'horloge qui a servi à faire le document en tête. C'est généralement du 13,5 MHz, puisque l'échantillonnage en SD Alors en HD, ce serait notre horloge, bien évidemment. En SD, c'est du 13,5 MHz. Donc on met un petit bout d'échantillon qui est répété à chaque paquet du document. Et à l'arrivée, avec ce petit échantillon, on reconstitue l'horloge d'origine. Ça n'a rien d'extraordinaire. C'est ce qu'on fait depuis 50 ans à peu près avec le PAL et le burst, etc., etc. C'est du burst numérique, tout simplement. Hein, on mettait un petit bout de sinusoïde à 4,43 sur le palier arrière de la suppression ligne. Voilà. Et ben, c'est exactement le même principe, à part que c'est des informations qui sont évidemment codées binaires. Pour bosser en réseau, il a fallu imaginer une simplification des tâches à accomplir entre l'individu qui a un bout qui est devant une application et l'individu qui a l'autre bout qui est devant une application de son côté et le réseau au milieu. Et là, il y a un modèle purement théorique qui n'existe pas, qui va être adapté cas par cas. Ce modèle, c'est le modèle OSI, Open System Interconnection, qui a détaillé le travail à accomplir entre l'application et le réseau en 7 couches parfaitement théoriques. Alors la couche application qui est la plus haute, suivie de la couche présentation, donc c'est la mise en forme des données, etc. La couche session, la couche transport, la couche réseau, la couche liaison de données, la couche physique, ça c'est le béton, c'est le cordon, les terminaisons du cordon, les impédances, les niveaux, etc. etc., etc. Donc, encore une fois, c'est génial parce que ça permet de faire plein de choses. Par contre, si vous cherchez un réseau qui fonctionne exactement comme ça, vous allez être déçu, ça n'existe pas. Mais il fallait bien en passer par cette étape pour arriver à créer des réseaux qui, eux, fonctionnent avec un nombre de couches qui n'est pas forcément celui-là. Alors, on avait parlé de paquets. Donc, la couche application va prendre le document d'origine, va le découper en paquets, va mettre sa petite en-tête, son en-tête. Et ensuite, ça va être passé à la couche présentation qui va prendre le truc, qui va rajouter l'en-tête de présentation, etc., etc., jusqu'en bas. Et, par exemple, la couche liaison va rajouter les données de contrôle derrière. Pourquoi ? Parce qu'on sait que c'est au niveau du réseau physique que va se produire l'apport, si je puis dire, des plus grosses merdouilles. Il est rare que dans une bécane, entre la couche présentation et la couche session, vous ayez beaucoup d'ennuis qui vous soient, par des interférences, des choses comme ça, qui vous créent des difficultés. Par contre, dès que vous rentrez dans un réseau qui fait quelques hectomètres, quelques kilomètres, quelques dizaines, quelques milliers de kilomètres, là, vous ne savez pas trop ce qui va se passer. On a vu tout à l'heure les données du MPEG-TS, quand vous transportez ça sur du satellite, vous imaginez qu'entre le satellite et puis le type qui a l'autre bout, il peut se passer des tas de conneries, surtout que la puissance d'émission est ridicule. Donc il faut des protections avec des corrections de données qui sont énormes quand on est en réseau satellite, par exemple pour la télévision numérique. Et donc on a les données qui arrivent au niveau du réseau, elles sont transportées. Et qu'est-ce qui va se passer à l'autre bout ? Eh bien, on fait exactement l'inverse. On remonte, on débarrasse l'en-tête de la couche que l'on est en train de traverser, et hop, on enlève l'en-tête suivante, etc., etc. Alors, ça peut même être beaucoup plus compliqué que ça. Ça, c'est un schéma simplifié. J'ai supposé que les fichiers ou les flux d'origine étaient découpés en paquets et que ces paquets n'étaient pas retouchés. Mais vous pouvez avoir, selon les protocoles que vous utilisez, vous pouvez avoir des données avec les en-têtes qui sont redécoupées pour avoir des paquets de longueurs différentes selon les protocoles qui sont utilisés. Alors là, ça devient un petit peu plus compliqué, mais enfin, on ne va pas aller jusque-là aujourd'hui. Alors, on parle de protocole. Le protocole, c'est l'ensemble des règles qui définissent le dialogue entre couches de même niveau, c'est-à-dire entre la couche N d'un côté du système et la couche N de l'autre côté du système. Alors, que va faire le protocole ? Ben, il va s'occuper des relations temporelles entre les documents qui sont transportés et le document lui-même, les notions de contrôle du transport ou de la session, ou de la présentation, etc., etc. Le formatage des données, la représentation des données, etc., etc. Et donc là, les protocoles, il y en a plus que je ne pourrais en citer. La présentation, c'est audio sur IP, et donc il fallait bien introduire IP là-dedans. IP, il se trouve sur la couche 3 du modèle théorique, vu à la loupe. En dessous, on a les couches basses, au-dessus, on a les couches hautes, et on constate qu'il y a un regroupement de toutes les applications autour d'IP pour la couche 3. On est tous d'accord pour dire que IP, au niveau de la couche 3, est un protocole qui est extrêmement utile. Alors au-dessus et en dessous, on a des protocoles qui sont plus ou moins performants selon l'application que l'on est en train d'envisager. Alors on va prendre un exemple. Je suppose que je fais du transfert Internet de fichiers. Je vais taper une adresse aux US. Je fais piquer un fichier à quelqu'un. Le côté relation avec le temps, je m'en tripote complètement parce qu'une fois que j'ai lancé le téléchargement, je peux aller pisser un coup, je reviens, c'est téléchargé ou ça ne l'est pas encore. Donc au-dessus, on va mettre un protocole de la couche transport, couche 4, qui sera par exemple TCP. Alors TCP, c'est un protocole fichier pur et dur, c'est-à-dire qu'on envoie un paquet, on dit « t'as reçu le paquet ?»« Ouais, t'as fait le test ?»« Ouais, il y a des fautes ?»« Oui, alors je te renvoie le paquet. » Pof. Donc on renvoie le paquet, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, jusqu'à temps que l'autre à l'autre bout, il dise « Bon, ça y est, ton paquet numéro N, je l'ai bien reçu, il n'y a plus de conneries dedans, il est bon, tu peux envoyer le suivant. » Alors évidemment, c'est génial pour faire du transfert de fichiers, pour faire de la diffusion en direct. Si vous renvoyez N fois le même paquet, il est bien certain que vous aurez des difficultés très vite à assurer la transmission en direct d'un document. Alors, le titre TCP/IP, pourquoi ce n'était pas possible ? Bah parce que tout simplement, nous, ce qui nous intéresse, c'est du transport audio temps réel, et évidemment, TCP ne convient pas. Donc là, pour la couche 4, la recommandation UER, c'est l'utilisation de User Datagram Protocol, UDP, qui, contrairement à son petit copain, est beaucoup plus relax et admet les conneries. Mais d'un autre côté, il assure le temps réel. Au-dessus, on aura Real-Time Protocol, c'est-à-dire pour les couches supérieures, on prendra RTP, suivi d'UDP, IP. Voilà la recommandation. On va voir après une pile de protocoles recommandés par l'UER. En couche supérieure, à côté de RTP, il y a SIP. Et puis, Alain m'a dit, il faudra quand même dire deux mots de SIP. C'est Session Initialization Protocol. C'est un protocole qui sert à établir la liaison, d'abord. Donc, au moment où on demande le transfert vers tel ou tel machin, SIP va vérifier que tout se passe bien, va paramétrer le système, etc., etc. Il restera un peu en retrait, en espèce de tâche de fond, si vous voulez, derrière, pour contrôler que tout se passe bien après, pendant la transmission des paquets audio. Et puis, il interviendra à la clôture de la session pour faire que tout soit fermé dans de bonnes conditions. Donc, c'est un protocole, je dirais, un peu d'établissement de liaison, de rupture de liaison et de contrôle que tout se passe bien pendant le transfert. Problème possible avec les paquets. Ah oui, on envoie des paquets. J'en ai envoyé par la poste. Ah, vous savez que des fois, ça merdouille. Quand on envoie un paquet sur un réseau IP, ou d'autres d'ailleurs, c'est pas ça, ça pourrait marcher avec d'autres réseaux que IP. Hein. Qu'est-ce qui peut arriver ? Ah, un paquet de paumé. Ah bon, d'accord, il manque un bout des données, tant pis. Des retards de transport de paquets. La variation du retard dans des proportions inacceptables, parce que si c'est acceptable, on s'en fout. Ça, c'est ce qu'on appelle la gigue. La livraison des paquets dans le désordre. Ah, ça, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas forcément dès le début. Comment est-ce qu'on peut avoir des paquets qui arrivent d'un ordre différent de celui de l'émission ? Bah, c'est tout simplement quand on a un réseau qui est configuré pour que ça arrive dans un certain délai, par exemple. Et donc, certains paquets vont prendre un chemin et d'autres paquets vont prendre un autre chemin. Et donc, à l'arrivée, on risque de retrouver les paquets dans le désordre, ce qui veut dire que parmi les choses qu'il faudra faire, c'est remettre les paquets dans l'ordre et on utilisera les numérotations des paquets que l'on trouvera dans les entêtes pour remettre ça en ordre. Et puis, alors, ce qui peut arriver aussi, fragmentation de paquets. Ça, il y a des systèmes d'administration de réseau qui découpent les paquets en petits morceaux, etc. Et là, on a des choses assez délicates qui peuvent se produire.
En fait, il faut être clair, hein, les réseaux, ça n'a jamais été fait pour transporter de l'audio, de la vidéo ou de la téléphonie. Donc après, on est bien dans la merde et après, on essaye. Comme c'est moins cher, tout le monde veut l'utiliser. Et donc, on essaye de faire un truc qui soit pas cher, qui marche et qui ne soit pas autobloquant.
Cela dit, si on regarde par rapport à il y a 20 ou 30 ans, les réseaux, on sait aujourd'hui... très très bien les organiser, on sait gérer les routeurs à distance, on sait faire plein de choses passionnantes et donc ça permet effectivement de transporter n'importe quoi, n'importe comment d'un bout à l'autre de la planète grâce aux artères optiques qui sont quand même extraordinaires et qui permettent des débits absolument colossaux sur des distances énormes puisque une liaison trans quelque chose, transpacifique, transatlantique, transmachin, pour être validée, il faut qu'elle fasse au moins 6300 km. Et aujourd'hui, on s'est transporté sur une seule fibre pratiquement 10 terabits par fibre. 5000 km à la vitesse de la lumière, c'est pas une seconde, hein, c'est un fifrelin de chouïa de pouillem de seconde.
Hein. Oui, le débit est en terabits par seconde.
Alors pour faire 10 terabits, c'est pas dur, il y a 250 6 raies spectrales, et sur chaque raie spectrale, on fait maintenant du 40 gigas. L'implantation du 40 gigas par raie spectrale est en train de se faire actuellement. En 8 ans, les réseaux optiques ont multiplié leur débit par 500.
Et en changeant la fibre aussi.
Attention, c'est des fibres de verre, hein. C'est pas du plastoc.
L'affaiblissement
des fibres plastiques est beaucoup trop important par l'unité de distance. Par contre, on les utilisera bientôt, les fibres plastiques, pour les réseaux domestiques. Tout le monde a des liaisons qui, au maximum, font 20-25 mètres dans une maison. Et 20-25 mètres en fibres plastiques, on sait faire. Le problème aujourd'hui, pourquoi on ne fait pas du réseau de fibres à la maison ? c'est les équipements terminaux. C'est pour passer de l'électrique à l'optique et de l'optique à l'électrique, aux deux extrémités. Bon. Ça coûte malheureusement encore un peu cher pour les bourses amateurs. Mais le jour où on saura faire les convertisseurs électriques, optiques, optiques, électriques, à des prix grand public, les réseaux autres que la fibre optique vont disparaître. À une époque, entre l'émetteur d'un côté de l'Atlantique, par exemple pendant l'Atlantique, et les récepteurs de l'autre côté, entre les deux, il y avait ce qu'on appelle des répéteurs. Or, les répéteurs, jusqu'à il y a peu de temps, c'était des répéteurs électriques. C'est-à-dire que tous les 80 km, on repassait d'optique en électrique, on faisait l'amplification, et crac, on repassait en optique, etc. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, on sait faire de l'amplification optique. Et en particulier, je vous invite à regarder sur Internet comment fonctionnent les amplificateurs de Raman. Alors, Raman, c'est son prénom parce qu'il a un nom. C'est un Indien contemporain qui a inventé, qui a mis au point l'amplification optique. Ça veut dire qu'il injecte des photons et les fait vibrer à la même fréquence que ceux du signal à transporter et en phase avec eux. Et donc, s'il rajoute des photons qui vibrent en phase et à la même fréquence, j'amplifie mon signal optique. Et donc, on fait l'amplification en optique. Aujourd'hui, un réseau peut être 100% optique. En particulier, l'aiguillage. On sait faire de l'aiguillage aujourd'hui. Par exemple, prendre une fibre avec 40 modulations. Puis on dit, tiens, elle est à 14, je veux l'enlever parce que je veux l'envoyer vers New York. Puis tout le reste va partir vers Philadelphie. Et bien ça, on sait le faire en optique pure. C'est la famille des MEMS, Micro Electromechanical Systems. C'est ce qui a servi à faire les projecteurs DLP, les micro-miroirs. C'est un dérivé image de quelque chose qui est utilisé dans les réseaux optiques. Dans le domaine optique, aujourd'hui, il y a des tas de sociétés qui travaillent là-dedans et qui font des choses absolument remarquables, un peu partout, y compris en France d'ailleurs, que ce soit en Bretagne, du côté de Lannion ou dans la région de Grenoble. Je prends des exemples de sociétés françaises qui sont en pointe dans le domaine et qui font des choses absolument extraordinaires. Puis alors, l'avantage des réseaux optiques, c'est qu'ils sont impiratables et imperturbables. Pour pirater un réseau optique, il faut couper la fibre. C'est la seule solution. On arrive à détecter l'intrusion. Alors que les réseaux autres, je ne parle pas de Wi-Fi et toutes les conneries du même tonneau, où pour pirater, c'est vachement facile. Tu veux œuvrer ?
Allez, j'œuvre.
Vas-y, je me tais.
Alors tu passes le témoin ?
Je passe le témoin à l'un des...
Magnifique.
T'as remarqué, hein ? Je t'ai même cité, je savais que c'était toi qui suis
là. Oui. Merci à vous.
Je vais boire un coup de...
Autre radio, autre culture.